Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du grain à moudre d'été, on est ensemble jusqu'à 19h. C'est la dernière ligne droite qui commence cette semaine pour la réforme du code du travail par ordonnance. Dès demain, le balai des visites reprendra rue de Grenelle. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, reçoit l'ensemble des organisations syndicales et patronales. Elle devrait découvrir les arbitrages réalisés à partir du travail de concertation mené au printemps. Près d'une cinquantaine de réunions entre mi-mai et mi-juin pour tenter de construire un accord global. Alors, reçus tour à tour, les partenaires sociaux devraient donc exprimer leur première réaction sur cette réforme controversée. Il faut dire que les points sensibles ne manquent pas. Fusion des instances représentatives, plafonnement des indemnités prud'homales, négociation à l'échelle de l'entreprise. Bref, c'est peu dire que la rentrée sociale commence avec un dossier sensible. Enjeu pour les gouvernements, réformer rapidement et si possible sans réveiller le conflit social provoqué par la loi travail en 2016. D'où l'intérêt de légiférer par ordonnance, un calendrier serré et des négociations au pas de course, compromis pour les uns, passage en force pour les autres, réforme du code du travail, les syndicats au pied du mur. Et c'est la discussion que nous aurons ce soir. Et je précise qu'il y a un point d'interrogation, bien sûr, à la fin de la question. Et ils sont trois invités pour discuter ce soir, à commencer par vous, Guillaume Duval. Bonsoir.
Bonsoir.
Et je vous voyais tiquer justement à l'idée qu'il n'y avait peut-être pas de point d'interrogation dans l'intonation de la phrase. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Alternative Économique. Vous êtes d'ailleurs venu avec le dernier numéro sous le bras, Macronomie. Comment ça marche, 20 mesures passées au crible. Et puis je rappelle aussi que vous êtes l'auteur de « La France ne sera plus jamais une grande puissance, tant mieux » aux éditions, et là il y a un point d'exclamation, aux éditions La Découverte, parue en 2015. À vos côtés pour discuter ce soir, Sophie Fay, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, vous, journaliste responsable du service éco du magazine L'Obs. Alors, vous n'êtes pas venu avec le dernier numéro de L'Obs sous le bras, mais vous pouvez peut-être nous dire la une quand même.
Oui, c'est une qui est consacrée aux dernières découvertes des historiens sur les expériences pratiquées par les médecins nazis sur les enfants atteints de maladies rares et dont on a retrouvé des traces, y compris à l'université de Strasbourg. On a retrouvé des tranches, des plaques avec des coupes de cerveau d'enfants. Et enfin, un travail est fait pour retrouver les familles, pour redonner un nom à ces victimes. Et c'est absolument stupéfiant de découvrir ça tant d'années après.
Sujet effectivement stupéfiant et grave. Et puis, troisième invité ce soir, Aurore Gorius. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste d'investigation pour Les Jours, spécialisée dans les enquêtes économiques et politiques, et auteur avec Michaël Moreau de La CFDT ou La volonté de signer, paru chez Hachette en 2006. Alors, je le disais en introduction, la ministre du Travail doit présenter cette semaine au syndicat les arbitrages. Alors, j'insiste sur ce thème. Présenter, est-ce qu'il s'agit de comprendre que les syndicats, à partir de cette semaine, vont devoir prendre acte ou non des décisions qui vont leur être présentées et non de négocier les contenus?
Bah, a priori, ils doivent découvrir. Oui, a priori, ils doivent découvrir cette semaine toute ou partie du texte des ordonnances, puisque pour l'instant, ils ont été consultés, ils ont été accueillis par le cabinet de Muriel Pénicaud, rue de Grenelle, mais ils n'ont discuté sur aucun texte précis. Ils ont fait part de leur avis, les conseillers ont pris des notes, mais il n'y avait pas de texte. Donc là, ils vont découvrir le texte. Et en effet, le gouvernement a la volonté d'imposer un timing et de contrôler au maximum cette négociation qui n'en est pas vraiment une, et d'imposer un timing extrêmement serré, puisqu'ils vont avoir vent de texte ou de partie de texte cette semaine, ils savent pas encore quoi. Ils vont juste pouvoir prendre des notes, ils vont pas pouvoir les emporter. Et ils vont pouvoir en discuter, faire part de leur réaction dans des entrevues de 2 heures avec le cabinet de Muriel Pénicaud. Et ensuite, les textes seront transmis assez rapidement au Conseil d'État, puis présentés probablement publiquement via une conférence de presse le 31 août. Donc dans ce timing-là, il va y avoir très très peu de temps pour renégocier le texte en réalité. Et ça, c'est ce qu'on constate depuis le début des discussions. Les syndicats ont un peu l'impression d'un jeu de dupes avec le cabinet, où finalement on leur demande un peu ce qu'ils pensent, mais ils n'ont jamais discuté vraiment précisément de mesures qu'ils vont découvrir là cette semaine. Donc c'est vraiment un peu un jeu de dupes qu'ils ont eu l'impression de vivre depuis 2-3 mois. Quoi.
Alors d'ailleurs, on parle plus souvent de concertation que de négociation, d'ailleurs, hein, Guillaume Duval.
Oui, c'est de toute façon la procédure des ordonnances est par elle-même le contraire d'une procédure de négociation. C'est même aussi une procédure qui élimine non seulement les partenaires sociaux, mais aussi le Parlement et les députés hein, de l'élaboration des textes. J'ajoute que, en ce qui concerne la France, c'est une procédure qui est tout à fait contraire à la loi telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il existe en France depuis 2008 une loi qui s'appelle la loi Larcher, qui dit que avant que l'État n'intervienne sur le droit du travail, il doit laisser les partenaires sociaux négocier. Alors là, évidemment, le gouvernement a quand même agi relativement habilement en les recevant souvent, longtemps, etc. Mais avec les limites qui viennent d'être rappelées, c'est-à-dire que oui, on vous écoute, c'est gentil, mais on ne discute rien de précis et les textes ne sont pas sur la table. Ils vont commencer à l'être, effectivement. Et c'est là qu'on verra les arbitrages qui sont retenus. Le diable est toujours dans les détails dans ces affaires.
Alors il y a d'ailleurs une procédure de contestation qui a été menée par plusieurs députés. Je crois, pour essayer de faire en sorte que la loi d'habilitation par ordonnance n'arrive pas à ses fins, quelque part.
La loi d'habilitation, elle fixe le cadre. Mais en réalité, ça donne juste le pouvoir au gouvernement, enfin ça donne une carte blanche au gouvernement pour prendre des ordonnances dans un champ précis. Mais en réalité, c'est ce qui vient d'être dit, le diable est dans les détails, et de savoir quel va être le plafond, par exemple, des indemnités prud'homales, en fonction de la somme, ça change tout. Donc, effectivement, quand on parle d'un cadre général, on parle de quelque chose de très très flou, et cette loi d'habilitation, elle a été votée, mais elle ne donne pas beaucoup d'indices aux syndicats pour savoir ce qu'il va y avoir dans les textes. Et le gouvernement a une carte blanche pour fixer ses arbitrages. La négociation, qui n'en est pas vraiment une, va être extrêmement courte. Les échanges avec les syndicats vont être extrêmement courts. Et une fois que les ordonnances sont publiées, et la publication est prévue fin septembre, elles rentrent en vigueur immédiatement. Le Parlement n'intervient que pour ratifier. Et comme la majorité est quand même très importante, la majorité du gouvernement est quand même très importante à l'Assemblée, la ratification ne devrait pas trop poser de problème. Donc effectivement, le Parlement est aussi complètement éjecté de la discussion sur une loi, enfin sur une réforme qui va quand même concerner 29 millions de salariés et qui consiste quand même à se poser la question de savoir quelle va être la place de l'accord d'entreprise par rapport à l'accord de branche, qui sont des questions quand même centrales pour un tas de salariés et un tas d'entreprises.
Sophie Fay, est-ce que vous partagez ces premières impressions de vos confrères ?
Alors je suis un peu moins dur sur la méthode du gouvernement, parce que d'abord sur ce qui est présenté, enfin sur le cadre de la loi et sur le cadre de la réforme, il avait quand même, Emmanuel Macron, annoncé beaucoup de choses dans son programme, donc les 29 millions de salariés savaient en partie à quoi s'attendre, hein, notamment sur le plafonnement des indemnités prud'hommes, puisqu'il a déjà essayé de le mettre en œuvre dans sa première loi, dans la loi Macron, et puis ils ont réessayé dans la loi El Khomri. Donc il a été élu, on savait qu'il voulait faire ça. Sur la volonté de développer la négociation au niveau de l'entreprise plutôt que au niveau de la branche, ça aussi il l'avait dit clairement. Et puis ensuite sur la concertation, alors c'est vrai que c'est pas une consultation, c'est vrai que c'est pas une négociation, c'est vrai que ça a été très vite, mais quand même j'ai été assez surprise de voir qu'ils ont tout de même le gouvernement a tout de même écouté ce qu'avaient à dire les organisations syndicales et n'a pas imposé un texte sans tenir compte de leur avis. Et notamment ce qui était prévu au départ, cette inversion de la hiérarchie des normes, hein, dont on avait beaucoup parlé au moment de la loi El Khomri, c'est-à-dire l'idée que ce sur quoi on se mettait d'accord dans l'entreprise pouvait prévaloir sur ce sur quoi on se mettait d'accord au niveau de la branche, enfin, ou en tout cas, on revoyait l'ordre des priorités. Ça a été quand même ça a été quand même nettement revu, et quand Force Ouvrière a insisté sur le fait que il fallait reconnaître l'importance de la branche et pas lui faire perdre son pouvoir, ça a été intégré dans la première partie de la négociation. Donc je trouve que finalement, même si dans les formes c'est une consultation, une négociation beaucoup moins poussée que les autres, à l'arrivée finalement on tient compte quand même de leur avis. En tout cas, c'est le sentiment qu'ils ont eu jusqu'à maintenant, et on attend effectivement de voir le texte.
Oui, parce que vous dites les reproches ou les demandes syndicales ont été intégrées, mais effectivement le texte pour l'instant, les contenus des ordonnances, on ne l'a pas. Et par ailleurs, Muriel Pénicaud devrait présenter non pas la totalité, mais entre 50 et 70% des arbitrages. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette méthode-là? Parce que vos confrères le soulignent, il y a aussi un flou, et peut-être les syndicats ne pourront pas remporter les textes chez eux. Est-ce que ça, c'est inédit, cette manière de fonctionner? Est-ce qu'on peut parler quand même d'un petit manque de transparence?
Tout est inédit. Si vous voulez, ils auraient pu procéder autrement. C'est-à-dire, ils auraient pu faire comme ça se passe dans les négociations très souvent. C'est-à-dire que le MEDEF, qui a le plus gros service juridique, ou l'UMM, prépare les textes, les donne au gouvernement, ou en tout cas ça sert de base très souvent dans les accords interprofessionnels. Le texte préparé par le MEDEF sert de base à la discussion et à l'accord qui sera après. Donc on amende le texte du MEDEF. Là au moins on n'amende pas le texte du MEDEF, c'est le gouvernement a fait ses concertations, et pendant cette période de petites semaines, une dizaine de jours où le cabinet, la ministre et une partie des responsables syndicaux étaient partis en vacances, la DGT, la Direction Générale du Travail du ministère, a élaboré les textes qui découvrent tous à partir d'aujourd'hui. Enfin, le cabinet et puis petit à petit les organisations syndicales. Donc c'est une autre méthode. Est-ce qu'elle est mieux, est-ce qu'elle est moins bien? Bon, attendons encore quelques jours pour voir le verdict.
Guillaume Duval?
Oui, je crois qu'il y a, enfin, sur la méthode, c'est vrai qu'il y a un souci d'éviter la confrontation brutale. On voit bien que Emmanuel Macron est moins bête, c'est pas forcément le terme, enfin moins droit dans ses bottes que pouvait l'être par exemple Manuel Valls sur ce genre de dossier, et qu'il est prêt à tenir compte des rapports de force plutôt que de vouloir affirmer son autorité pour montrer son autorité. Donc là-dessus, il y a pas de doute. L'autre chose qui est claire dans la manière dont ça s'est passé, c'est qu'il y a aussi une volonté de la part du gouvernement de sortir du face-à-face avec la seule CFDT du côté syndical, et pouvoir discuter en particulier plus ouvertement et de manière moins conflictuelle avec Force Ouvrière. Donc ça explique un certain nombre des évolutions qui ont pu avoir lieu. Pour autant, il reste encore des très gros points d'achoppement potentiels dont on va voir si comment ils vont être réglés. C'est-à-dire qu'il y a en particulier deux questions qui me viennent à l'esprit. C'est d'une part la capacité ou non de négocier dans les entreprises en se passant des syndicats. Donc il en a été question, en tout cas pour les petites entreprises. Donc là, ce serait vraiment une agression très forte.
Ce qui a été posé comme une ligne rouge par la CFDT.
Oui, ça a été posé comme une ligne rouge par différents syndicats. Donc si elle devait être franchie, ce serait vraiment un signal important. L'autre élément, par exemple, qui est encore en suspens, c'est quel est le périmètre sur lequel on juge de l'état économique d'une entreprise pour juger de la pertinence des plans sociaux. Si le gouvernement veut la ramener, comme il en est question, au périmètre strictement français, là, c'est vraiment ouvrir la porte à toutes les manipulations des multinationales pour fermer leurs entreprises françaises quand elles veulent. Hein, c'est très facile pour une entreprise multinationale de mettre sa filiale française en déficit en jouant sur les prix de transfert, etc., si elle le souhaite. Donc là, ce serait vraiment un pas assez dangereux l'évolution en termes de plans sociaux, de permettre de faire un peu n'importe quoi dans ce domaine.
Donc le conflit social reste un risque, si je vous entends bien. Et justement, dans ces 30 à 50% d'arbitrages qui n'ont pas été faits, on peut peut-être imaginer que le plus difficile, le plus dur, est gardé pour la fin, d'ailleurs, Aurore Gorius.
Oui, c'est fort possible. Et depuis le début, en fait, il y a tout le jeu du gouvernement consiste quand même, dans la façon dont il a mené ses discussions, ses consultations, à essayer d'éviter la confrontation, avec des entrevues au ministère entre syndicats et le cabinet qui étaient toujours des entrevues en tête-à-tête, donc un syndicat un par un, pas d'intersyndicale, aucune intersyndicale, alors que ça a été réclamé depuis le début par les syndicats et ça a été refusé. Toujours, et là, cette semaine, ce ne sont pas des intersyndicales, c'est vraiment en tête-à-tête. Par ailleurs, on parle de la rédaction des ordonnances. Alors, c'est vrai que c'est pas le texte du MEDEF, mais le directeur de cabinet de Muriel Pénicaud est un ancien du MEDEF. Donc, voilà. Et puis, par ailleurs, la rédaction des ordonnances elle-même a fait l'objet d'un verrouillage extrême. C'est-à-dire qu'il y a une petite équipe au sein de la Direction générale du travail qui a été quelques hauts fonctionnaires qui ont été triés sur le volet pour écrire le texte des ordonnances et pour éviter toute fuite. Il a été créé une plateforme spéciale d'échange entre ces hauts fonctionnaires. Ils n'ont pas eu le droit de communiquer avec leurs collègues. Donc il y a eu comme ça une espèce de paranoïa pour éviter à tout prix les fuites. Donc avec l'idée derrière que toute fuite éventuelle, comme il y a pu y avoir au mois de juin, et vous vous souvenez peut-être que Muriel Pénicaud avait dit qu'elle porterait plainte contre ses propres agents, parce qu'il y avait eu des fuites dans la presse. Donc il y a quand même un climat de paranoïa extrême. Et tout ça parce que, effectivement, on sent que le gouvernement, Emmanuel Macron en particulier, qui a vécu l'épisode de Laura El Khomri, veut à tout prix éviter une nouvelle flambée sociale comme sur cette loi. Donc il y a vraiment, alors c'est très habile, mais il y a quand même un verrouillage très très important. Et les agents du ministère du Travail, quand vous parlez avec eux, ils n'ont jamais vu des ordonnances rédigées par une petite équipe comme ça, coupées du reste de l'administration.
Alors précisément sur le travail de ce petit groupe qui a été chargé de faire la synthèse des travaux de concertation qui avaient été menés au printemps, toute la question est là, c'est-à-dire est-ce que c'était un travail de synthèse ou est-ce que c'est un travail d'arbitrage politique et auquel cas, qui fait vraiment partie de ce petit groupe de travail? Par qui est-il piloté? Est-ce que c'est la ministre du Travail? Est-ce que c'est le président lui-même directement?
C'est très compliqué à savoir où sont pris les arbitrages, les derniers arbitrages les plus sensibles. Le sentiment des syndicats, c'est quand même que beaucoup de choses se décident assez haut, c'est-à-dire plutôt à l'Élysée. Après, évidemment, il y a des choses qui peuvent éventuellement aussi se décider à Matignon. Et évidemment, aussi au niveau du ministère du Travail, les arbitrages peuvent intervenir à différents niveaux. Mais c'est vrai que sur cette loi qui est quand même le premier texte vraiment sensible, enfin, c'est pas un texte de loi, mais un dossier extrêmement sensible de ce début de quinquennat pour Emmanuel Macron. Il est surveillé comme le lait sur le feu par l'Élysée, le conseiller social de l'Élysée, par le secrétaire général de l'Élysée lui-même, Alexis Kohler. Et tout est fait pour éviter absolument, parce qu'il faut pas, il faut quand même se souvenir que derrière, alors il y a possibilité d'un mouvement social, mais derrière il y a aussi des étudiants qui vont avoir une rentrée sociale un peu tendue. Par ailleurs, il y a derrière une réforme possible de l'UNEDIC, où la question du tripartisme est remise en cause, donc les syndicats ne sont pas contents non plus là-dessus. Donc il peut vraiment y avoir une coagulation comme ça, et évidemment tout est fait pour éviter ça. Et de fait, c'est plutôt bien mené, mais il faut avoir conscience que tout est fait pour ça.
Alors on va revenir sur ce risque social un instant encore, sur ce processus de concertation inédit, comme vous l'avez dit. Imaginons que dans la semaine, les arbitrages qui sont présentés aux syndicats sont explosifs ou ne conviennent pas. Est-ce qu'on peut imaginer que le gouvernement revoie sa copie? Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre, Sophie Fay?
Il y en a une, puisque de toute façon, il est déjà prévu que les syndicats soient reçus à Matignon. Alors, il n'y a pas de date et tout, mais de date précise, mais Édouard Philippe leur a laissé entendre qu'il les recevrait aussi avant la conférence de presse du 31. Et puis, ils ont évidemment le contact, comme Aurore le disait, des conseillers à l'Élysée. Mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que cette stratégie qui a été prise de les recevoir individuellement, ça les a plutôt fédérés, en fait. Je crois qu'ils se sont jamais autant téléphonés. C'était un peu tendu après la loi El Khomri entre organisations, notamment entre la CGT, FO et la CFDT. Et là, ils se téléphonent tous. Et en ce moment, ce que je comprends, c'est que ils ont envie d'être assez unis et ça passera pour tous ou pas. Alors il y a la CGT bien sûr qui elle a pris une position un peu différente en appelant déjà à manifester dès le 12, mais même indépendamment de cette position, ils se parleront et on sent bien que si quelque chose bloque, FO et la CFDT n'iront pas forcément en ordre dispersé et que s'ils peuvent, ils feront front commun. Donc c'est intéressant parce que ça a un peu raté leur stratégie de les voir un par un pour diviser le front. Au contraire, ça les a plutôt, je trouve, rapprochés.
Guillaume Duval, vous partagez cette impression? Les syndicats sont unis? Alors, quand on dit à part la CGT, c'est quand même beaucoup aussi.
Non, mais même la CGT n'est pas exclue de ces appels.
De ce dialogue.
Dans la mesure où c'est une négociation, la position des... Enfin, oui, ce n'est pas une négociation, la position des syndicats est assez aisée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à soutenir, à dire qu'ils sont 100% d'accord avec ce qui sort. Donc, je pense que ça facilite les choses, effectivement, y compris pour la CFDT, pour émettre des critiques ou dire qu'elle n'est pas d'accord avec tel ou tel aspect des choses. Donc, sous cet angle-là, oui. Mais ce qui est surtout choquant dans cette affaire, c'est l'énergie politique que ce gouvernement dépense sur un sujet qui n'en est pas un. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans une situation où on voit que le chômage recule en France, où on voit que les créations d'emplois sont relativement dynamiques, où il n'y a pas besoin de risquer de mettre le feu au pays avec des mesures de ce type pour améliorer les choses. Donc là,
vous dire que c'est un risque
déjà...
social et politique inutile que prend le gouvernement.
Donc c'est une affaire qui est relativement bien gérée. Je suis d'accord avec ce que mes collègues ont pu dire, mais ça reste une aberration de consacrer les trois premiers mois du quinquennat à un dossier qui n'en est pas un. C'est déjà beaucoup plus facile de licencier quelqu'un en France qu'en Allemagne. À titre individuel ou à titre collectif, on a inventé la rupture conventionnelle, ce qui fait que vraiment se séparer d'un salarié, c'est plus une affaire, et ça marche du feu de Dieu. Donc tous ces sujets n'en sont pas, et vraiment le fait que Emmanuel Macron ait jugé absolument nécessaire de consacrer autant de temps et autant d'énergie au démarrage de son quinquennat à cette affaire-là, ça reste pour moi un sujet à la fois d'étonnement et surtout de critique. Enfin, alors oui, c'est bien mené, peut-être que ça dérapera pas et qu'on n'aboutira pas à mettre le pays dans la rue, etc. Mais ça n'empêche que ça n'en valait certainement pas la peine.
Alors il y a peut-être un facteur qui va jouer pour Emmanuel Macron par rapport à Hollande. Est-ce qu'on peut s'attendre à un effet de déception moins fort, ne serait-ce que du fait qu'il a annoncé la couleur dès le début et que finalement c'est forcément plus difficile pour un gouvernement socialiste de faire passer de telles réformes que pour un gouvernement, on va dire, centriste ou ni droite ni gauche, je ne sais pas comment il faut dire. Sophie Fay.
Ce qui est plutôt rassurant dans ce qu'a dit Guillaume Duval ou dans la question que vous posez, c'est que finalement, dans cette réforme qu'on annonçait comme la loi El Khomri XXL, quelque chose qui devait faire peur à tout le monde,
Sur le contenu, c'est vrai qu'il y a des mesures quand même.
Oui, mais on n'a pas ce qui fait vraiment peur, c'est-à-dire ces contrats zéro heure qu'on a vu se développer en Angleterre, les mini qu'on a vu se développer.
Enfin, les contrats de chantier attirent la rigole, ça va être sympa. Hein.
Oui, mais
c'est du CDD sans la prime de précarité, c'est encore pire.
Oui, mais on n'en est pas à diminuer les prestations d'assurance chômage pour forcer les gens à reprendre un emploi. On n'en est pas, on est sur quelque chose qui finalement, enfin, on peut pas dire tout et son contraire. Si ça vaut pas. Si vous dites c'est tout ça pour ça, donc c'est pas une révolution, donc pourquoi ils mettent autant d'énergie politique? Bon, dans ce cas-là, voilà, c'est une loi qui facilite la négociation dans l'entreprise et c'est pas si important. Et après tout, c'est ce que demandaient beaucoup d'entreprises étrangères, c'est ce que demande le MEDEF, sur une partie, ils ont gain de cause et ils demandent ça pour créer plus d'emplois, pour embaucher plus facilement, donc tout va bien.
Je pense pas. Non, vraiment, il y a quand même des points dans ce texte qui font débat, il y a des lignes rouge bien réel. Par exemple, si on plafonne les indemnités prud'homales, ça veut dire que l'employeur va pouvoir faire des calculs très simples, combien ça me coûte de licencier un salarié, y compris de façon abusive, donc ça pose un vrai problème moral, et donc on va faire comme ça des calculs, ça me coûte tant de le licencier, peu importe le motif, puisqu'au prud'homme ça va me coûter tant, je budgète et je licencie beaucoup plus facilement. Donc ça c'est quand même important.
Sans compter le droit à l'erreur. Hein.
Sans compter le droit à l'erreur. Il y a aussi une volonté dans ce texte de contourner les syndicats, de les marginaliser, avec toute l'idée de regrouper dans une seule instance les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les délégués du fameux CHSCT, comité d'hygiène et compagnie. Donc de noyer les délégués syndicaux, et là-dessus les syndicats sont vent debout, parce que évidemment leur pouvoir serait amoindri. Donc il y a quand même toute une philosophie derrière qui est hyper libérale, quoi qu'on en dise. C'est pas, je crois que ce que disait Guillaume Duval, c'est que c'est pas un texte qui est anodin. C'est que par contre, sur le principe même de revenir à la charge avec un texte de la sorte, alors que le chômage baisse, alors que la croissance est plutôt meilleure que ce les prévisions de début d'année. C'est absurde, c'est-à-dire que, et on le sait, et les syndicats le disent, y compris des syndicats comme la CFE-CGC, et pas forcément la CGT, on sait très bien que c'est pas en assouplissant à nouveau le code du travail, il a été assoupli 17 fois depuis les années 80, que ça va à nouveau permettre d'embaucher plus. On sait très bien que si on veut licencier aujourd'hui en France, c'est pas très compliqué, qu'il y a la rupture conventionnelle, et que si on veut faire partir des salariés, c'est pas très compliqué. Donc, c'est vrai qu'on comprend mal pourquoi consacrer autant de temps à ce texte qui, effectivement, peut en plus créer du mécontentement et une rentrée sociale très chaude, alors qu'il n'est pas forcément absolument nécessaire, même du point de vue, me semble-t-il, des entreprises, ou alors vraiment d'un MEDEF très idéologique, mais toutes les entreprises n'ont pas forcément besoin de ce texte, je pense pas.
Alors, Aurore Gorius, étant donné les risques que vous rappelez du contenu de cette réforme, c'est peut-être une question un peu naïve, mais comment vous expliquez que jusqu'à présent, les syndicats aient plutôt joué le jeu de la concertation, joué le jeu... négociation, c'est peut-être pas le mot, mais ils auraient pu aussi, d'une seule voix, boycotter tout simplement
ces rencontres. Quand on parlait avec eux, ils disaient ce qui a été dit, et c'est très vrai. On a un président qui a été élu avec un programme. Il nous demande de discuter par rapport à ce programme. On ne peut pas, de but en blanc, l'envoyer bouler et ne pas participer aux discussions. Tant qu'il y a une discussion ouverte, les syndicats se sont dit, on y va, on discute, et puis on voit ce qu'il en sort. Et donc, ils y sont allés, mais quand même, au fur et à mesure des discussions, ils ont eu l'impression que c'était un peu un jeu de dupes et qu'on parlait un peu sur du vide. Et maintenant, effectivement, ils attendent le texte des ordonnances. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce côté légitimité très forte d'Emmanuel Macron. Il arrive avec un programme, c'est difficile de dire on veut pas du tout en parler. Donc les syndicats ont joué le jeu. Et maintenant, on va voir les choses, les positions se déboucler cette semaine, quoi.
On ne peut pas dire qu'un CDI va se transformer en CDD, on ne peut pas dire qu'un simple accord d'entreprise peut primer sur la loi. Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, là, on n'est plus du tout protégé. Autant supprimer le code de travail.
On a vu que le gouvernement il nous a donné quelques victoires à la marge. Et donc, ça veut dire que la mobilisation, elle paye. Ça veut dire qu'être des millions dans la rue, ça marche. J'ai peur que, oui, on se retrouve avec moins de CDI, avec encore moins de travail. Parce que quand le gouvernement dit en licenciant plus facilement, ça va diminuer le chômage. C'est simplement illogique. Ça ne fonctionne pas.
On est victime. Ça fait déjà 3 ans que j'ai pas d'augmentation. Donc je suis victime. Et ça, je suis pas d'accord. Je suis en désaccord complet. Hein. Et en plus, maintenant, ils attaquent les jeunes. Alors là, je suis révolté.
Alors, une archive pas si vieille, hein, extrait d'un reportage de France 2 diffusé en avril 2016 lors d'une manifestation contre la loi travail. Pour le moment, donc vous l'avez dit, la CGT est la seule organisation syndicale à avoir appelé à une journée de manifestation. Ce sera le 12 novembre. Est-ce que...
Septembre,
pardon. plus proche qu'il n'y paraît. Est-ce que vous avez l'impression que la CGT va pouvoir compter sur des forces sociales au-delà hein, des centrales syndicales parmi celles qui s'étaient mobilisées contre la loi travail, ou est-ce que là le risque c'est surtout elle qui le prend d'être un peu seule dans cet appel, Guillaume Duval?
Oh, je pense que Aurore a bien résumé les choses tout à l'heure, c'est-à-dire que le principal risque vient probablement des étudiants, de la situation qui est créée à la fois par l'affaire des APL, par les difficultés d'inscription à l'université, par l'austérité budgétaire et les difficultés financières de très nombreuses universités. Donc la coalisation éventuelle de ce mécontentement-là avec un mécontentement des salariés. Bon, mais on n'arrive jamais à prévoir ce qui va se passer sur le terrain social. Ce qu'il faut se souvenir, c'est quand même, effectivement, en 1995, Jacques Chirac avait été élu assez haut la main, avait lui aussi eu une majorité assez large derrière à l'Assemblée, et en décembre c'était fini parce qu'il s'était planté sur les réformes qu'Alain Juppé voulait faire à l'époque. Donc là, je ne sais pas comment ça va tourner là-dessus, mais le risque existe. Mais en même temps, pour les raisons qui ont déjà été soulignées, effectivement, les syndicats ne cherchent pas forcément tous les syndicats ne cherchent pas forcément l'affrontement immédiat avec le gouvernement.
Oui, Sophie Fay.
Oui, même Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que la CGC, qui représente donc les cadres, est très remontée, très contre cette réforme, très contre cette généralisation du libéralisme, très contre l'idée que on obéit à une sorte de parti de l'étranger qui serait les fonds de pension que Muriel Pénicaud a beaucoup côtoyé quand elle était directrice générale de Business France. Elle voyait tout le temps ces investisseurs étrangers qui critiquaient comme un peu comme un dogme, comme une mythologie le droit du travail français, et donc il est très remonté.
Et comment vous expliquez, justement, que la CFE-CGC, syndicat de cadres, syndicat plutôt réformiste, utilise un vocabulaire, j'ai regardé aussi sur les communiqués qui relèvent plutôt de la CGT.
Mais c'est à la fois une position et des convictions personnelles de François Omeril, son dirigeant, et puis aussi une forme de ras-le-bol, je pense, des cadres qui voient parfois, qui sont obligés d'appliquer et qui se retrouvent coincés dans leur position hiérarchique entre des directions qui leur font appliquer des décisions très financières et des salariés qu'ils encadrent auxquels ils n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils font passer comme décision. Donc c'est pas complètement illogique qu'il y ait ce mécontentement.
Une souffrance spécifique des cadres.
De là à aller s'engouffrer dans un mouvement où il serait aux côtés de la CGT et aux côtés de France Insoumise,
ce serait
assez inédit. Je crois qu'il y a un pas qu'il n'est pas prêt à franchir.
Guillaume Duval.
Non, mais simplement sur les syndicats réformistes, je pense que la CFDT est aussi dans un esprit plus critique vis-à-vis de ces réformes que précédemment, et l'UNSA également. Les syndicats réformistes ont l'impression de se faire avoir.
Ils sont très silencieux.
À chaque fois qu'ils disent oui à un petit truc, qu'ils mettent la main dans un engrenage et qu'on leur en demande toujours plus la fois d'après. Donc oui, je pense que là, ça fait beaucoup supplémentaire, d'autant que, comme je le disais tout à l'heure, dans le contexte économique et social d'aujourd'hui, ça ne paraît absolument pas utile ni nécessaire d'aller dans ce sens-là. Alors donc oui, je pense qu'il y aura une position critique globalement de l'ensemble du mouvement syndical. Après, est-ce que ça débouche effectivement sur une mobilisation dans la rue ou des choses comme ça ? Je pense que le pays est aussi un peu fatigué de tout ça après 2016 déjà. Je suis pas sûr que ça dérape, mais je ne pense pas que ça sera inscrit au positif du bilan d'Emmanuel Macron, même si ça ne dérape pas, d'avoir été encore plus loin que la loi travail sur la libéralisation du marché du travail en France.
Alors sur la qualification du climat social actuel, je vous avoue que quand on n'est pas spécialiste comme vous l'êtes pour chacun des journaux pour lesquels vous travaillez, il n'est pas évident en fait de qualifier la manière, on va dire, globale dont les syndicats se positionnent, parce qu'on peut lire tour à tour soit que l'ensemble des syndicats ont réagi de manière plutôt positif. Michel Noblecourt, votre confrère dans Le Monde, parlait lui de positive attitude des syndicats, tandis que d'autres disent bah non, globalement, les syndicats ont l'impression de s'être fait avoir. Comment est-ce que vous expliquez qu'on ait des regards aussi différents de la part même des observateurs du monde économique et social?
Du point de vue des syndicats, je crois que eux-mêmes ont conscience qu'il peut y avoir aussi un ras-le-bol, des grands raouts dans la rue, de la part de l'opinion. Il y a eu ça pendant toute la loi El Khomri, et que peut-être que du point de vue même de leur de l'opinion en général, sachant que les syndicats en France sont déjà assez faibles, être dans une posture de contestation systématique, c'est peut-être mal vu. La CFDT, au printemps dernier, est devenue syndicat réformiste, est devenue le premier syndicat aux élections professionnelles, donc c'est devant la CGT. Donc le côté réformiste a plutôt été valorisé. Donc il peut aussi y avoir un mouvement de l'opinion qui n'est pas très favorable à la contestation systématique. Et encore une fois, c'était compliqué, quand un nouveau président arrive, de ne pas discuter et de ne pas se montrer ouvert à la discussion. Donc, je ne sais pas de quand date ce papier, mais en tout cas, c'est vrai qu'au début, on a eu l'impression...
Du 4 juillet.
On a eu l'impression, en juin, peut-être encore début juillet, qu'il y avait une sorte d'accueil positif des syndicats dans l'idée de discuter et d'essayer de faire valoir leur position, puisque le dialogue était ouvert. Et ensuite, il y a quand même eu une certaine désillusion. Et là, en ce moment, le discours des syndicats est plutôt de dire, clairement de dire qu'ils attendent vraiment de discuter sur quelque chose, parce que jusqu'à présent, ce qui manque vraiment, c'est vraiment de discuter de points précis et d'arbitrages précis. Et là, ils attendent les arbitrages. Donc on va savoir, là, cette semaine, et la semaine prochaine, ce qu'il en est vraiment.
Sophie Fay,
ils ont aussi tiré les leçons de la loi El Khomri. C'est-à-dire que au bureau confédéral de EFO, ils sont largement revenus sur ces 12 ou 13 manifestations, et ils ont constaté quand même qu'à la fin, ils avaient très peu fait changer le texte, et que le texte était quand même passé en l'état, et qu'aujourd'hui, quel est l'intérêt des salariés? Est-ce que c'est d'essayer jusqu'au bout de peser sur ce texte des ordonnances pour qu'elle soit le moins défavorable possible pour eux, puisque on parle bien de flexibilité, donc on ne parle pas de rajouter des droits aux salariés, mais plutôt quand même d'en enlever. Donc il faut que ce soit le mieux encadré possible. Donc ils veulent être à la table jusqu'au bout. Et puis ils sont très conscients que derrière ça, il y a deux ou trois autres réformes, puisqu'il y aura celle de l'assurance chômage, celle de la formation professionnelle et celle des retraites. Et puis on peut rajouter celle de l'apprentissage. Donc ils veulent absolument rester dans la concertation. La dernière chose, c'est que ce que cette réforme veut faire, donc on verra si elle y arrive ou pas, mais elle veut faciliter, développer, encourager la négociation dans l'entreprise. Et l'idéal serait que cette négociation dans l'entreprise se fasse avec des syndicats qui soient forts et qui aient les moyens de défendre les intérêts des salariés. Et pour ça, il faut gagner les élections dans l'entreprise et il faut pouvoir s'implanter dans les entreprises qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas voulu ou n'ont pas été très ouvertes aux syndicats, à la fois peut-être parce que la direction n'a pas envie, mais aussi parfois parce que les salariés n'y voient pas l'intérêt. C'est ce qu'on voit notamment dans les entreprises de l'économie numérique, dans une partie des start-up et tout ça. Et donc là, il faut montrer un jour aussi, plutôt réformiste, et pas seulement un jour de syndicat qui bloque tout et qui dit non à tout. Donc il y a aussi un enjeu là-dessus, à mon avis, sur l'implantation dans l'entreprise et donc l'image qu'on a. Et je pense que EFO n'a pas envie de retrouver cette image de syndicat réformiste qu'il avait avant la mobilisation contre la loi El Khomri.
Alors les négociations se feront-elles à l'échelle de l'entreprise ou à l'échelle de la branche? C'est effectivement un des enjeux cruciaux quand même de cette réforme du code de travail. Mais vous le disiez, Sophie Fay, la volonté du gouvernement, il ne s'en cache pas, est de ramener la négociation au niveau de l'entreprise. EFO, vous le rappeliez, Guillaume Duval, a plutôt obtenu de ramener un certain nombre de dossiers au niveau des branches. Mais justement, aujourd'hui, on en est où? Est-ce que c'est plutôt le côté branche qui va être plus important ou le côté entreprise, le niveau entreprise?
On en est un entre-deux où les branches vont se voir confier un certain nombre de tâches supplémentaires qui relevaient jusque-là du droit du travail en tant que tel, notamment sur les différentes formes de contrats, les contrats de chantier, etc. Donc là, il y a une évolution sur ce plan-là et d'autre part un peu plus de négociations dans l'entreprise. Mais sur la question de l'entreprise, je pense qu'elle est effectivement centrale. Moi, ce que je regrette beaucoup, c'est que ce gouvernement n'ait pas saisi l'occasion de faire évoluer réellement le fonctionnement des entreprises françaises, la gouvernance des entreprises françaises. On nous bassine depuis des années avec le modèle allemand. Là, il y avait une occasion de dire, on veut négocier dans l'entreprise, très bien, eh bien qu'on adopte le modèle allemand, qu'on ait des conseils, des comités d'entreprise qui aient un droit de veto sur des décisions managériales importantes, comme c'est le cas en Allemagne. En Allemagne, quand un patron veut changer l'équipement d'un poste de travail, quand il veut faire des heures supplémentaires, des équipes de nuit, etc., il doit obtenir l'accord de son comité d'entreprise. Il n'est pas consulté pour information. Pourquoi est-ce que, si le gouvernement veut vraiment négocier dans l'entreprise, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas on va mettre la moitié des membres des conseils d'administration, on va dire que c'est les représentants des salariés, comme c'est la situation aujourd'hui en Allemagne. Si l'Allemagne est beaucoup plus solide que nous, sur le plan industriel en particulier, c'est pas du tout parce que les patrons ont moins de contraintes dans les entreprises, c'est au contraire parce qu'ils en ont plus, parce que les salariés sont mieux représentés, qu'ils se sentent plus partie prenante de leur entreprise. C'est comme ça qu'on pourrait changer les choses en France et améliorer l'économie. Malheureusement, sur ce plan-là, c'est complètement une occasion ratée.
Donc c'est pas le niveau qui compte, mais la manière dont c'est organisé, enfin l'état du rapport de force au niveau où cela se passe.
Le niveau compte aussi, mais là, on peut pas dire qu'on renforce la situation des représentants des salariés dans les entreprises avec ce qui est prévu.
Surtout aussi avec le référendum initiative du chef d'entreprise.
Plus la négociation sans les syndicats, si elle y est.
Donc là, ça pose quand même, enfin, sur le côté réformiste et dialogue social, il y a vraiment
Pour l'instant,
c'est au désavantage pour l'instant des syndicats, ce qui est
mais
prévu.
Tout n'est peut-être pas encore perdu, parce que par exemple sur le référendum ce que les syndicats ont compris, c'est qu'on s'orientait quand même vers un référendum qui ne pourrait pas être à la seule initiative du chef d'entreprise. Il faudrait quand même qu'il y ait un syndicat majoritaire qui soit d'accord. Donc on aurait, mais on va voir encore une fois la rédaction définitive des ordonnances. Et puis sur la négociation, il y a une proposition qui est sur la table, qui est de dire que faute de syndicats dans l'entreprise, c'est l'accord de branche qui s'applique et il n'y a pas de négociation possible et qu'on ne peut négocier que s'il y a un syndicat. Et la question, c'est à partir de combien de salariés, parce que dans les très petites entreprises où la présence syndicale est peu développée, c'est difficile à faire. Mais apparemment, Force ouvrière Jean-Dominique Simon-Poli, qui a fait ce rapport pour Muriel Pénicaud sur la comment on valorise les carrières des représentants syndicaux dans l'entreprise, ont l'air de dire que tout le monde pourrait se mettre d'accord du côté des syndicats sur un seuil de 50 salariés. Au-delà de 50 salariés, sans syndicat, on serait obligé d'appliquer l'accord de branche et on ne pourrait pas négocier autre chose. Bon, le MEDEF n'est pas d'accord, le patronat n'est pas d'accord, mais c'est une proposition sur la table qui, de fait, renforcerait les syndicats, puisqu'on serait obligé d'avoir des syndicats dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Alors,
dans
les moins de 50, on négocierait Guillaume sans Duval. Les salariés, sans les syndicats. C'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de grandes entreprises qui sont organisées en structure de moins de 50 pour éviter justement un certain nombre de normes sociales. Je pense en particulier aussi, il y a un sujet qui n'est pas du tout abordé là dans cette négociation. On n'aborde pas les vrais sujets. On n'aborde pas Uber, on n'aborde pas l'ubérisation de la société, on n'aborde pas les réseaux de franchise. Donc aujourd'hui, il y a des entreprises multinationales énormes qui sont organisées dans ce pays sous la forme de réseaux de théoriquement d'indépendants. Où chacun n'est qu'une PME alors que c'est une fiction totale.
Peut-être que ces questions seront abordées par le Parlement directement.
On a un gouvernement qui disait qu'il voulait aborder les sujets qui sont sur la table et les nouveaux sujets, etc. Il ne les aborde absolument pas.
Sophie Fay.
À tel point, pour aller dans le sens de ce que dit Guillaume, que France Digital, qui réunit 700 startups, envisage de se constituer en branche, de créer une branche pour pouvoir avoir ses propres accords de branche, pour essayer de trouver des statuts qui correspondent à la manière de travailler des salariés de startups, d'après eux, ne sont pas du tout... sont pas du tout intégrés dans cette loi et dans ces réformes, et notamment la question du travail indépendant des salariés de plateforme, et tout ça n'est pas réglé, donc ils envisagent de se constituer en branche.
Alors il y a aussi une autre proposition sur la table qui concerne directement les instances représentatives. Il s'agirait de fusionner plusieurs instances représentatives. Qu'est-ce que ça va changer à votre avis? Est-ce que ça va aller dans le sens de ce que vous disiez, Aurore Gorius, peut-être d'affaiblir le pouvoir de négociation des syndicats?
C'est le sentiment qu'ont les syndicats, qu'on essaie de les contourner. Et ça va pas du tout dans le sens d'une amélioration du dialogue social. En plus... Si cette disposition n'était pas très claire au début des discussions, elle a été précisée par la suite. Tout est très flou. Il a été dit un peu tout et son contraire. Enfin, il y a eu des évolutions en cours de discussion, mais rien n'a été arbitré. Donc, encore une fois, tout dépend de la façon dont est constituée cette espèce d'instance globale qui existerait, qui regrouperait tous les représentants. C'est comme pour le reste, tout dépend du seuil, de là où on place le curseur. Et quand même, les syndicats ont vraiment l'impression qu'on essaye un peu de les marginaliser dans l'entreprise et pas du tout d'améliorer leur représentation, le dialogue social. Donc pour l'instant, c'est quand même un sentiment. Mais ça, pour le coup, tout syndicat confondu, c'est-à-dire que même EFO, qui s'est montré assez docile par la voix de Jean-Claude Mailly, alors que la base de EFO commence quand même s'est exprimée de façon un petit peu plus, beaucoup plus critique sur le texte. Mais Jean-Claude Mailly a depuis le début été très docile et même sur ce point-là, tous les syndicats confondus craignent vraiment les arbitrages qui vont être pris.
Guillaume Duval, vous aurez le mot de la fin.
Oui, sur le conseil d'entreprise, moi, fondamentalement, je suis plutôt pour. Je pense que c'est la situation allemande où il y a effectivement une instance unique qui est très puissante parce qu'elle est unique. Elle est de droit aussi à partir de 5 salariés. C'est-à-dire que les Allemands ont résolu la question des seuils en les abaissant. Mais après, tout est effectivement dans les détails, c'est-à-dire dans les heures de délégation, dans les pouvoirs qui sont confiés à cette instance, dans les budgets qui sont confiés à cette instance, etc. etc. Et là, on n'en sait rien pour l'instant.
Détails, effectivement, qui devraient normalement apparaître, en tout cas commencer à apparaître au fil de cette semaine. Mais merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Guillaume Duval, Sophie Fay, Aurore Gorius. Les références, les liens, les infos, mais aussi la réécoute de cette émission et de toutes les autres, et bien c'est comme toujours sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été. Du Grain à Moudre, une émission préparée par Juliette Montilly, Isulte Sicard, Philippine Lebray, Cédric Fuentes et Pierre Testard. Réalisation Romain Masson, prise de son ce soir Jean-Guilain Meige, droit d'auteur Tom Delétreze.